Deutsche Welle. Le club de l'auditeur.
Vraiment, ça nuit beaucoup à la vie humaine. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des aliments que nous consommons proviennent à travers des plastiques. Et ces déchets plastiques, sur le plan sanitaire, ils sont toxiques.
Aujourd'hui, les gens ont peur du fait de dire qu'on ne va plus utiliser le sachet. C'est beaucoup de commerçants qui vont en pâtir. Mais nous, nous disons non. C'est plutôt une occasion pour beaucoup de personnes de s'investir dans autre chose, d'être innovatrice et de créer de nouveaux emplois.
Les sacs plastiques, on en parle aujourd'hui dans ce club, votre magazine animé par Mireille Dron, comme tous les samedis et dimanches. Bonjour à toutes et à tous et un clin d'œil tout spécial à Redonné de Port-au-Prince en Haïti, à Gilles du Club du Perche en France, à Djibril de Bamako au Mali, Boniface de Conakry en Guinée, Lasso d'Abidjan en Côte d'Ivoire, Victor de Mbanzangungu en RDC et Fidel de N'Djamena au Tchad, toujours fidèle à la DW. Et puis félicitations à Prosper d'Agnier au Togo, Rachid de Balil au Maroc, Idrissi de Béjaïa en Algérie, Guillaume de Boisflay en Côte d'Ivoire, Hyacinthe de Nyanga au Congo-Brazzaville, Eric de Dondo en Angola et Chanceline de Kigali au Rwanda. Ils ont tous fêté cette semaine leur anniversaire. Et si, pourquoi pas, si ça commençait par vous? Oui, vous, pas votre voisin. Chaque geste compte pour éviter le sachet qui pollue notre environnement, bouche les canalisations et cause des inondations. Voilà le message que lance sur les réseaux sociaux le hashtag Sachet Heloué du Bénin. Le Bénin où, ça y est, désormais, la loi qui prohibe la fabrication, l'importation, la vente et l'utilisation de sacs plastiques, à moins qu'ils soient biodégradables ou réutilisables, est entrée en application cette semaine, le 27 juin. Elle prévoit aussi des peines de prison de 3 à 6 mois pour ceux qui distribuent des sacs non biodégradables. L'association hashtag Sachet Heloué appelle donc les Béninois à adopter de nouveaux comportements responsables. Sandra Idoussou, présidente de l'association que j'ai jointe à Cotonou, nous en dit plus.
Nous avons des sacs en tissu écru que nous avons fait fabriquer ici et donc petit à petit nous essayons d'amener nos populations à adopter ce type d'emballage. Les tote bags, c'est les sacs en tissu lavables, réutilisables, comme ceux que vous avez en Allemagne.
Oui.
Et donc, comme c'est encore nouveau, ben, ça va prendre du temps, mais nous faisons de la sensibilisation et nous disons justement aux gens que nous avons des alternatives aux sachets plastiques.
Oui.
Celui-là fait partie d'une des alternatives, mais on en a d'autres. Il y a des paniers, il y a des emballages en papier, il y a plusieurs types d'emballages alternatifs.
Oui. Alors, dites-moi, Sandra, l'application de la loi est rentrée le mercredi 27 juin en vigueur. Est-ce que tous les Béninois sont prêts à se plier, ont déjà pris le pli, justement, puisqu'il y a eu quand même plusieurs mois de transition déjà?
Tout à fait. Nous avons eu justement 6 mois de transition. Et ces 6 mois avaient pour objectif de sensibiliser les populations, d'amener tous les promoteurs d'emballage à en disposer un peu partout sur toute l'étendue du territoire. Et donc, on pourrait plutôt dire que les Béninois sont au courant de cette loi. Maintenant, est-ce qu'on a des alternatives disponibles sur toute l'étendue du pays? Peut-être pas tout à fait, ça va prendre du temps. Mais pour l'instant, la loi est mise en application. Mais la répression commence le 1er juillet. Donc, les gens sont au courant. Bon, mais en même temps, je me dis au niveau de la sensibilisation, on peut faire beaucoup plus.
Mais vous, justement, qui avez largement sensibilisé via votre hashtag Sachet Heloué, est-ce que vous avez rencontré beaucoup de soutien, un grand écho? Est-ce que beaucoup
Alors,
de gens ont acheté vos...
Alors, c'est compliqué à le dire comme ça, parce que nous sommes une association. Malheureusement, nous n'avons pas pu bénéficier de l'appui financier des institutions pour nous aider à porter le message un peu plus loin que Cotonou et ses environs. Mais les quelques rencontres, parce que nous avons fait de la sensibilisation dans les écoles, dans les manifestations de grand public, l'accueil que les gens nous donnent est effectivement très positif. Ce que les gens disent plutôt, c'est qu'il faut rendre les alternatives disponibles un peu partout et à des coûts assez accessibles à la population.
Eh oui.
Donc, par rapport à l'interdiction, les gens comprennent. C'est pas ça le problème aujourd'hui. Le vrai questionnement de la population, c'est où trouver les alternatives et on espère qu'ils ont des coûts assez raisonnables.
Votre projet, il existe depuis quand?
Alors nous avons commencé ce projet en août de l'année dernière.
Mmh.
Et donc ce projet a commencé par la sensibilisation sur les réseaux sociaux parce que pour nous c'était un moyen simple de toucher des gens. Nous avons lancé une pétition, je pense en août aussi, et puis la loi a été votée. Donc la pétition a un peu poussé les députés qui travaillaient sur ce projet de loi qui était à l'Assemblée depuis 2 ans. Et donc finalement, la loi a été votée. Bon, maintenant, nous sommes devenus une association parce qu'au départ, on était juste un mouvement citoyen. Par la force des choses, nous sommes devenus une association. Nous quémandons par là pour avoir de l'aide pour pouvoir porter le message plus loin et toucher toutes les couches sociales de la population. Parce que, bon, toucher les gens dans les marchés, dans tous les villages, il faut avoir de gros moyens. Donc, nous, nous faisons avec ce que nous pouvons.
Bien sûr. Et ces sacs, donc, en tissu, en papier, ces paniers dont vous parliez, où sont-ils fabriqués?
Alors, la plupart, ceux que nous, nous promotons, ceux que nous voulons amener les Béninois à utiliser, sont tous fabriqués ici au Bénin. Parce que, pour nous, il vaut mieux que nous nous approprions nous-mêmes ces type d'emballage. Et donc les sacs, par exemple, que vous avez vu sur notre page, ce sont des sacs qui ont été fabriqués par nous-mêmes ici avec un tissu local. Mm-hmm. En dehors de ça, il y a des paniers qui sont fabriqués à base de matière végétale. Mm-hmm. C'est de la fabrication locale aussi. Ceux qui font des alternatives à base de papier, alors ils font venir du papier d'ailleurs, mais ils sont fabriqués, ils sont coupés, ils sont mis à disposition ici par des Béninois. Et donc nous, nous sommes plutôt vers des solutions locales, sachant que avant le sachet, ben on avait notre façon aussi de conserver,
enfin, bien sûr, des aliments, un petit peu tout, oui. Voilà. Et donc la fabrication de ces contenants alternatifs est du coup aussi pourvoyeuse d'emploi.
Oui, en fait c'est ça. Aujourd'hui, les gens ont peur. Beaucoup pensent que bon, le fait de dire qu'on ne va plus utiliser le sachet, c'est beaucoup de commerçants qui vont en pâtir. Mais nous, nous disons non. C'est plutôt une occasion pour beaucoup de personnes de s'investir dans autre chose, d'être innovatrice et de créer de nouveaux emplois. Donc pour nous, c'est une alternative, mais en même temps un moyen de générer des emplois.
Bien sûr. Sauf que pour l'instant, par exemple, combien coûte un sachet en tissu si je veux acheter
chez
un
nous,
sachet?
Chez nous, par exemple, oui. Ce que nous, nous faisons, nous le vendons à 2000 francs. Ça fait 3 euros, sachant que pour 3 euros, c'est un sac avec un branding, avec un message là-dessus. Mais ceux qui ne peuvent pas s'acheter ce type de sac, dans nos maisons, nous avons tous des vieux draps, des vieux jeans, des vieux rideaux que nous n'utilisons pas. Oui. Et donc, localement, dans les maisons, chacun peut coudre son tote bag. Et donc, ce que nous, nous disons au moment de notre sensibilisation, c'est qu'il faut plutôt voir que localement, nous avons des solutions. Il suffit de prendre un vieux pain qu'on n'utilise pas, de le faire coudre par un tailleur qui va nous coûter 200 francs. Et donc, à un coût très raisonnable, on peut avoir des tote bags réutilisables sur longue durée.
Bien sûr. Et donc, oui, c'est bien accueilli par les populations qui comprennent bien entendu l'utilité d'interdire ce type de sac quand on voit justement les inondations qui viennent de se produire à nouveau, par exemple, au Togo, à Abidjan, un petit peu partout.
En Côte d'Ivoire, donc, oui, voilà. Tout à fait. Donc justement, nous, c'est effectivement ça le message. Nous avons fait une campagne de sensibilisation lundi encore dans un quartier où il y avait beaucoup de dépotoirs. Et notre exemple, c'était justement pour éviter d'avoir les mêmes catastrophes que ceux du Togo ou de la Côte d'Ivoire. Il faut éviter le sachet parce que le sachet bouche nos canalisations. Donc ça ne fait que confirmer le message que nous donnions déjà à nos populations.
Et puis, vous soulignez aussi l'aspect santé.
Oui, au fait, au départ, notre premier objectif, c'était beaucoup plus par rapport à la santé parce qu'on s'est rendu compte qu'au Bénin, la plupart des nourritures étaient emballées dans le sachet plastique. Ici, les gens, le matin, ils prennent la bouillie dans les sachets plastiques, ils prennent des meuniers, ils prennent du pain, tout ce qu'ils mangent était emballé dans le sachet plastique. Et donc, notre objectif, c'était de sensibiliser par rapport à l'aspect santé publique.
Sachant donc qu'en effet, le plastique est nocif parce qu'il y a des particules qui se détachent.
Tout à fait. C'est effectivement ça notre message, pour dire que comme le sachet est fabriqué avec des résidus de pétrole, donc il faut faire gaffe et il ne faut pas qu'il soit en contact avec la nourriture.
Et ça, les gens l'ont compris aussi entre-temps.
Je pense que oui, mais bon, en même temps, on pouvait faire plus et avoir plus de personnes à le comprendre. Nous, par exemple, au sein de notre association, nous avons cotisé de nous-mêmes pour produire un clip de sensibilisation. Mm-hmm. Le plan, au départ, c'était de faire un clip dans toutes les langues nationales pour que tout le monde puisse les comprendre. Oui. Bon, malheureusement, on n'a pas pas pu avoir les moyens pour un clip en langue nationale, mais je pense que ceux qui comprennent français, ils sont tout à fait au courant du fait qu'il faut éviter de manger des aliments emballés dans le sachet.
Mmh. Mais existe-t-il d'autres associations comme la vôtre qui œuvrent dans le même sens?
Nous, nous avons commencé l'année dernière, mais avant nous, il y avait d'autres associations qui travaillaient aussi dans la sensibilisation sur les dangers du sachet plastique. Nous travaillons avec quelques-unes de plus en plus, parce qu'on a compris qu'ensemble, on est plus fort. Et donc, il y a certaines activités que nous menons ensemble avec les autres associations.
Sandra Ilosu, présidente de l'association Sachet Eloué au Bénin. Donc, après une période transitoire de 6 mois, la loi semble bien perçue par la population. Apparemment, ça marche. En témoigne par exemple Rodrigue, qui raconte sur son compte Twitter « Hier, j'étais au supermarché et la caissière m'a dit que compte tenu de la décision du gouvernement d'interdire l'utilisation des sachets plastiques au Bénin, eh bien, le supermarché n'en fournit plus. » William du Bénin toujours dit aussi s'engager à lutter contre l'usage des sachets plastiques non biodégradables. Tous ensemble pour sauver des vies, disons « No more plastic bag », un hashtag qui dit donc « Plus de sacs plastiques », écrit-il sur Twitter. Alors plusieurs initiatives œuvrent pour changer les habitudes et mettre fin à l'utilisation des sacs plastiques au Bénin. Mais là comme ailleurs, il reste encore du chemin à faire. Mirabel de Cotonou dit par exemple apprécier l'initiative de l'association Sachet Eloué, sauf que jusque-là, la majeure partie des populations ont encore des sachets plastiques et ne savent pas quoi en faire, tandis que d'autres n'en ont plus mais ne savent pas quoi utiliser à la place. Les vendeurs d'eau Pure Water s'interrogent aussi sur le sort qui leur est réservé, nous écrit Mirabel. Une douzaine de pays africains interdisent désormais les sacs en plastique, un véritable fléau que sont devenus ces petits sachets noirs, roses, verts, bleus et j'en passe, que l'on retrouve partout, dans les rues, dans les caniveaux, dans les arbres, dans les champs, dans l'estomac des animaux et même dans notre organisme, puisque nous en ingurgitons, sans le savoir, dans l'eau et notre nourriture. Au Kenya, par exemple, la loi est vraiment stricte et personne n'utilise plus les sachets plastiques. Cela fait effet, nous rapporte Jean de Nairobi. La police arrête même ceux qui circulent dans la rue avec des sachets et les entreprises qui en produisent peuvent même recevoir des amendes allant jusqu'à 5 000 $, nous écrit Jean. Mais souvent, entre la théorie et la pratique, il y a un grand fossé. Mahman de Gao, au Mali, constate que les sacs plastiques sont toujours sur le marché. Ils prolifèrent dans les rues et les canalisations. La loi a été votée, mais sans aucun impact sur le quotidien. Du coup, les projets alternatifs tardent à s'implanter et à changer notre environnement. Les alternatives les plus courantes, minimes qu'elles soient, sont l'usage de paniers, de tissus, etc., nous rapporte Mahman. Mais il existe des projets innovateurs, comme ceux pour recycler les sacs en plastique. Hélas, ils ne sont pas accompagnés ni encouragés par les autorités maliennes pour avoir plus d'impact, regrette Mahaman. Du côté du Togo, un décret de 2011 interdit la production, l'importation et la vente de sacs plastiques, mais le constat est amer, nous écrit Christian Delomé. Les plastiques pullulent à tous les coins de rue et dans les airs, dans l'indifférence générale de la population. Et selon lui, les initiatives pour sensibiliser la population, justement, semblent ne plus suffire. Dossou, dans la capitale togolaise, déplore le laisser-aller de part et d'autre.
Chez nous ici à Lomé, les sachets plastiques continuent de circuler et ça pullule encore, malgré l'interdiction qui avait été faite depuis 2012. Vraiment, on voit encore une montée en puissance de fabrication des sachets plastiques noirs et qui pullulent un peu partout. Vraiment, ça ne bouge pas que les caniveaux, ça tue même les bêtes. Parce que parfois, ces sachets, avec du sel, quand les moutons mangent, ça part se coller à leur intestin. Et ce qui est déplorable. Vraiment, si on peut retourner à nos anciennes valeurs, c'est-à-dire que tu veux aller acheter quelque chose, tu prends ta corbeille depuis la maison. Mais aujourd'hui, on voit que les jeunes n'aiment pas ça. Quand on veut aller faire des achats, on part bras ballants. Et c'est là-bas qu'on amasse des tonnes de sachets. Si vraiment nous pouvons retourner aux vieilles habitudes, pour aller acheter de la bouillie par exemple, ne pas aller bras ballants et acheter ça dans des sachets, mais aller avec un gobelet, partir de chez soi avec un gobelet, serait mieux. Il faut vraiment aussi que ceux qui contreviennent à cette politique-là soient rigoureusement punis. Mais on voit qu'il y a dû laisser aller et que même les sachets, les usines qui fabriquent, je ne peux pas dire que on ne les connaît pas pour vraiment interdire, mais je crois que les intérêts de ces sociétés font qu'on les laisse continuer et c'est ce qui nous tue.
Un constat que fait aussi Bosco d'Atapame au Togo toujours. Il affirme que l'on trouve les sacs en plastique à gogo sur les marchés, malgré le simulacre de loi les interdisant, écrit-il. Les contrevenants ne sont pas punis, mais c'est plutôt eux qui dictent leurs lois aux populations à travers leur fabrication qui continue de faire du mal et pollue l'environnement. Et selon lui, les solutions existent déjà. Le retour à l'utilisation des feuilles d'arbres et de paniers accessibles à tous, le changement de mentalité pour que les gens soient moins paresseux. Un des grands problèmes de la vie d'Emmanuel d'Atapame aussi, c'est qu'il n'y a pas de structure de transformation. Et malgré l'interdiction d'importation des sachets non biodégradables, les frontières restent toujours poreuses, regrette-t-il. Au Congo, même phénomène qui prendrait même de l'ampleur à en croire Phoenix de Pointe-Noire. Les sacs plastiques ont été interdits, mais faute de mesures d'accompagnement, ces sacs prennent de l'ampleur dans nos marchés, constate-t-il. En RDC, n'en parlons même pas, s'exclame Danny de Kinshasa. Kinshasa est la capitale des emballages plastiques de tout genre et leur interdiction n'est pas pour ce siècle, prédit-il. Prions seulement pour que les hommes politiques aient des programmes à la hauteur des problèmes de pollution de la nature par ces emballages plastiques. Même écho de la part de Pierre à Lubumbashi, nous sommes inondés de bouteilles en plastique et autres. Si une start-up pouvait venir en RDC pour régler ce problème, on la considérerait comme un dieu sauveur, écrit-il. Et Pierre espère que l'Union européenne, par exemple, pourra trouver une solution pour aider même toute l'Afrique à respirer. Sauf que les plastiques ne quitteront jamais le Congo, aussi longtemps que les usines de fabrication défendront leurs intérêts, pense un autre internaute congolais. Au Cameroun, malgré la loi concernant les sacs plastiques, nombreux sont les opérateurs économiques qui continuent à les utiliser dans leurs différentes activités commerciales, observe aussi Aurélien de Douala. C'est une réalité qui continue malheureusement à causer bien des désagréments au fil du temps, écrit-il. Alors, mauvaises habitudes, manque d'alternatives sont les causes de cet envahissement de l'environnement par les sacs plastiques. Mais aussi pauvreté, comme le souligne Moussa de Dakoro dans le nord du Niger. Il s'inquiète de cette menace que sont les déchets plastiques et en fait le constat chaque jour.
C'est un phénomène qui me tient à cœur parce que déjà je suis un agent de l'environnement de la localité.
Oui.
Malgré la volonté de nos autorités, parce qu'il y a quelques mois de cela, le président de la République en personne même a signé un décret portant éradication de ces déchets et même la commercialisation. Vraiment, en ce qui concerne les dégâts sur le plan agricole, parce que nous sommes dans un monde rural, vraiment les paysans souffrent en ce qui concerne les conséquences du déchet plastique dans les champs. Parce que même ce matin, dans ma propre maison même, je me sens très dérangé par les déchets plastiques parce que chaque matin, 6 heures, je me lève pour balayer les déchets plastiques et je les brûle. Et puis, quand vous prenez aussi un autre cas, au niveau des caniveaux qui sont dans les villes, vraiment, les déchets plastiques font leur cause aussi. Vous savez, ici, le nord du pays, on pratique souvent l'élevage.
Oui.
Ce matin, j'étais avec un éleveur. Je lui demandais quelles sont les conséquences de nos déchets plastiques pour vos animaux. Il me disait que quand un animal mange avec le déchet plastique, vraiment, il a 99% de chances de mourir.
Eh oui.
En tout cas, donc, pour moi, en tant qu'agent forestier, je vois que le déchet plastique cause beaucoup de dégâts sur le plan environnemental au Niger, notamment dans ma localité, Dakoro. Et puis, ça nuit beaucoup à la vie humaine. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des aliments que nous consommons proviennent à travers des plastiques. Et sur le plan sanitaire, ils sont toxiques.
Oui.
Parce qu'il y a des maladies. En tout cas, j'encourage les autorités. À part même des lois qui sont déjà votées, qui sont même en application depuis les années 2004, aussi à encourager en adoptant de nouveaux décrets pour empêcher la propagation de ces déchets plastiques.
Oui. Mais quelles sont les alternatives, Moussa? Est-ce qu'il existe des sacs ou des corbeilles ou des sacs en papier ou en tissu qui sont accessibles, c'est-à-dire qu'on peut les trouver et qui sont aussi abordables du point de vue du prix?
Bon, vous savez, La majorité de la population nigérienne, elle est pauvre.
Oui.
Et je pense que c'est très difficile d'avoir une alternative qui peut canaliser les effets du déchet plastique. Parce que si vous prenez le fait même de balayer un terrain pour un pauvre qui n'a pas la garantie de manger trois fois matin, midi, soir, vraiment, je pense que les alternatives seront très difficiles. Mais peut-être avec la volonté de nos autorités, parce que nos autorités ne sont pas restées bras croisés. Moi, en tant qu'agent forestier, j'encourage parce que je vois l'État nigérien prend aussi sa responsabilité et fait de son mieux pour canaliser, parce que je ne peux pas dire empêcher totalement, parce que c'est un phénomène de ce genre, c'est difficile de le freiner à coup de main. Et pour les alternatives, il faut que les barres de fond, telles que les organismes des Nations Unies qui s'occupent de l'environnement, l'Union européenne et même les organisations de la sous-région, il faut qu'elles prennent aussi leurs responsabilités en main, c'est-à-dire il faut qu'elles appuient les services techniques de l'environnement des pays d'Afrique pour parvenir à éradiquer. Parce que c'est un phénomène qui est très conséquentif sur la vie humaine, animale et même sur le plan sylvicole. Vous voyez, quand vous plantez un arbre dans le trou, quand un plastique vient et l'embouche, vraiment, le plant n'a pas la moindre chance de grandir. À part ça, maintenant, quand nous avons un terrain à reboiser, quand le terrain est toxiqué par ce déchet plastique, vraiment, je vois que ce n'est pas facile d'éradiquer et enfin de planter. Donc, c'est très négatif.
Bien sûr. Mais vous disiez vous-même que ce matin, par exemple, vous avez balayé devant votre porte tous ces sachets. Est-ce qu'il existe des initiatives privées pour ramasser les sachets? Par exemple, dans certains pays, ils s'organisent une fois par semaine ou ils font un jogging en ramassant tous ces déchets plastiques, par exemple. Et puis après, une structure pour les brûler, par exemple, ou pour les transformer.
Bon, en ce qui concerne le Niger, vraiment, déjà l'État a pris les initiatives parce que maintenant, la salubrité urbaine en général est dans les mains des environnementalistes parce que c'est le ministère de l'Environnement qui s'occupe de la salubrité. Donc la salubrité ici au Niger à 80%, c'est le ramassage des déchets plastiques dans les agglomérations, le monde rural et même dans le champ. Et ça a réussi. Parce que à travers l'initiative, dans ces deux dernières années, vraiment, nous pouvons dire que la pollution s'est quand même réduite dans ce sens. C'est quand il concerne les initiatives de transformation, là, nous sommes encore en retard. Parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas des associations ou des ONG qui appuient l'État dans ce sens.
Au Niger comme ailleurs, il faut dire aussi que si les populations disposaient des infrastructures adéquates, elles n'auraient pas recours aux sachets plastiques, comme par exemple les fameux sachets d'eau Pure Water, parfois pas pure du tout d'ailleurs, puisque certaines familles les remplissent avec de l'eau du robinet parfois douteuse et tentent de se faire ainsi un peu d'argent. Une question de santé publique donc, mais aussi un constat d'échec des gouvernements à distribuer de l'eau potable aux populations. De l'autre côté de l'Atlantique, au Brésil, Lucas de Brasilia nous écrit que quelques supermarchés utilisent encore des sacs en plastique plutôt que des sacs biodégradables. Tanguy que Joe de Belo Horizonte, au Brésil toujours, nous rapporte que pour mettre un terme à ces pratiques, eh bien on passe par l'éducation des personnes surtout. Alors, bien vrai que le phénomène interpelle le monde entier. Savez-vous que 10 millions de sacs plastiques sont utilisés, tenez-vous bien, chaque minute dans le monde, selon un nouveau rapport de l'ONU. Des chiffres à vous en couper le souffle. L'essentiel de ces déchets sont des plastiques à usage unique, comme les bouteilles en plastique, les bouchons, emballages alimentaires, sacs plastiques de supermarché, récipients alimentaires à emporter, etc. Or, 9% seulement de ces tonnes de plastique sont recyclées. Le reste finit dans les décharges, les océans, les canalisations et met des milliers d'années à se décomposer totalement. L'ONU salue un début de prise de conscience face à l'ampleur du problème et relève que plus de 60 pays ont adopté des politiques visant à réduire cette pollution. Mais ça ne suffit pas, selon l'ONU, qui plaide pour une meilleure gestion des déchets, des mesures pour encourager les consommateurs à changer leurs habitudes ou encore davantage de recherches sur les matériaux alternatifs. Notez pour finir que la journée mondiale sans sac plastique sera fêtée le 3 juillet, peut-être l'occasion d'échanger de bons plans. Voilà, n'hésitez pas à réagir à ce magazine. Vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse suivante mireille.drone@dw.com. Pour laisser un message écrit ou parler via WhatsApp, inscrivez-vous en tapant dw.com/WhatsApp. Vous recevrez en plus nos informations gratuitement. Et pour consulter notre site internet, notre adresse c'est dw.com/français. Vous y retrouverez les émissions du Club de l'Auditeur et tous nos programmes à télécharger, ainsi que les liens vers nos pages Facebook et Twitter. À très très vite, j'espère. Bonne écoute et bon week-end à tous. Au revoir.